Revue de presse de l'April, semaine 11, année 2013. Salut Manu.
Salut Luc.
Bien, parle-nous du sommaire.
Alors, on a 8 articles principaux, je crois qu'il y en a 11 en tout. On va vous parler de sexisme et des milieux geeks. Jean-Marc Hérault qui nous ressort une directive, on dirait. La police des films informatiques au Sénégal. Les DRM, c'était la semaine des DRM. Les cours universitaires et des licences un peu plus ouvertes, discussion sur le libre et le propriétaire, la neutralité du net, et finalement, on parle de la génération GitHub.
Rue 69, ce n'est pas une erreur, jeu vidéo, presse, logiciel libre, partie pirate, du sexisme en milieu geek. C'est un article de Yann Guégan.
Qui fait référence à tout un texte assez considérable sur safaitgenre.org. Donc déjà, allez jeter un œil sur celui de Rue 69 qui résume bien la situation, parce que l'autre est très long.
Oui, c'est un article écrit par une gameuse, une joueuse, qui répond au surnom de Marlar, et qui est étudiante à Sciences Po, semble-t-il.
C'est du lourd, on peut le dire. Hein.
Alors effectivement, bon, elle est gameuse, mais elle touche également à l'informatique, donc elle attaque pas mal de milieux, dont celui du logiciel libre, peut-être plus légèrement que celui du jeu, mais il semblerait qu'elle soit plus gameuse que codeuse. Mais
ouais,
également, non, voilà, les forums de développeurs, ce genre de choses, elle a des tas d'histoires, déjà, ne serait-ce qu'à l'intérieur des jeux, où les figures féminines, c'est toujours des filles super sexy.
Elle rappelle le père qui a transformé Zelda pour que le personnage principal soit féminin, mais justement, ça a été très mal perçu par certains gamers.
Ce qui a lancé des trolls infinis.
Et ce qui est assez amusant, c'est même les réactions ensuite face à elle, notamment un gars du parti pirate qui a été un peu connard et qui s'est pris une volée de bois vert en retour, au point que justement le parti pirate a dû le dénoncer, dire non, il a utilisé un compte un peu officiel, mais c'était pas vraiment officiel.
Donc l'article est intéressant, après ça on se demande toujours, puis si évidemment c'est pas, disons, la couche de connard qui s'exprime au effort parce qu'ils se sentent à l'aise et que c'est toujours plus facile d'agresser les gens par internet que face à face. Voilà, mais en tout cas c'est intéressant comme point de vue.
Moi j'aurais tendance à voir comme étant un milieu de gens qui eux-mêmes ont beaucoup subi de problèmes sociaux. Donc des gens qui sont un peu renfermés et qui, entre eux, traitent mal les nouveaux arrivants.
Ça touche tout le monde.
Oui, n'est-ce pas? Mais pourtant, il y en a qui veulent dire non, c'est ma communauté, c'est mon groupe et tu n'as pas le droit de vouloir en changer les habitudes. C'est une des réactions qu'elle relève et contre laquelle elle veut se battre. En tout cas, allez jeter un œil. Le sexisme, il faut essayer de dépasser tous ces problèmes-là et devenir un petit peu plus intelligent.
CIO Online, Jean-Marc Hérault impose une gouvernance cohérente à tout l'État. Un article de Bertrand Lemaire.
Et oui, on reparle d'une directive, non, une circulaire ce coup-ci.
Voilà, donc on se souvient de la directive d'Héro dont nous avions beaucoup parlé. Donc là, ce coup-ci, hop, circulaire, et ça impacte indirectement cette question de l'accord open bar du ministère de la Défense.
Oui, dont on a pas mal parlé en mal, parce que c'était un renouvellement, et en gros, on renouvelait entre le ministère de la Défense et Microsoft toutes ces licences qui sont utilisées dans tous les sens. Alors, on a cru savoir que c'était lié notamment au problème d'interopérabilité au sein de l'OTAN. En tout cas, c'est une des raisons qui est avancée, un peu minable. Mais ça n'empêche, là, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marc Hérault et sa DSI à lui va vouloir coordonner les DSI de tous les ministères.
Voilà, donc il réaffirme certains des principes qu'il y avait dans la circulaire qu'on a abondamment cité ces derniers temps.
Et qu'on a traduit à l'April en anglais notamment.
Et ben là, c'est un peu une forme de mise en application. Donc programme très ambitieux puisqu'il s'agit de coordonner toutes les DSI des ministères et de leur dire bon ben maintenant on va harmoniser les pratiques. Et on sait que dans n'importe quelle organisation, c'est toujours très douloureux et très difficile.
Donc on s'attend à des grincements de dents. A priori, il laisse du pouvoir à ses DSI, notamment toute la gestion au jour le jour, mais
en
probablement...
En même temps, il
ne
peut pas
décisions...
leur dire « maintenant vous allez obéir, sinon on vous casse les dents ».
Il y a de ça, effectivement. En tout cas, on est plutôt content, on veut voir ce que ça va donner, mais c'est vrai, il commence à taper du poing, à impliquer des choses. La directive Hero nous a tellement plu qu'on est enchanté d'en voir... Potentiel
voilà, donc il cite absolument pas le cas du ministère de la Défense. Mais
n'est-ce
en même
pas
temps,
mais l'article, lui, remonte qu'on peut le voir en
C'est pas l'objet du document en question, et on verra bien ce que ça va donner. L'Héral.net, la police des firmes informatiques se manifeste au Sénégal. Un article d'Ibrahima Diop. Un article assez long.
Oui, qui commence en force, avec l'ACTA.
Voilà, et un nouvel accord qui est en train de se négocier, qui est le TPP, le Trans-Pacific Partnership.
Et qui reprendrait justement pas mal de cet esprit-là. L'auteur n'est pas content, ça se sent.
On sent qu'il a la rage et qu'il n'est pas content. On a l'impression que l'article a été écrit peut-être un peu vite et manifestement sous le coup de la colère. Mais
à la première personne.
Ouais. Il n'en demeure pas moins que le contenu est intéressant. et que cette personne est spécialiste en économie et management de la propriété intellectuelle.
Oui, ce qui n'est pas rien, même si on ne sait pas exactement ce que c'est que la propriété intellectuelle. Et là, il se plaint notamment...
C'est une branche du droit quand même, mais...
Oui, mais tu sais bien de quoi elle retourne. Et là, il se plaint notamment des audits que peuvent faire ces sociétés les sociétés d'informatique qui ont des logiciels propriétaires. Ils ont le droit d'auditer les entreprises. Lui, il s'en plaint, donc... Je demande si c'est pas le cas.
C'est en fonction de la législation de chaque pays, mais donc il évoque ces formulaires qui sont envoyés aux entreprises en disant dites-nous ce que vous avez comme logiciel et puis prouvez-nous que vous n'êtes pas des pirates.
Et on va peut-être passer pour aller vérifier tout ça.
Il n'est pas content du tout et il fait le lien avec toute cette escroquerie de la propriété intellectuelle où il explique qu'elle a de la valeur pour elle-même puisqu'en fait ça devient finalement un moyen de domination. Lui va parler de colonisation, mais bon finalement c'est tout à fait valable chez nous aussi. C'est un moyen de mettre le monde sous coupe réglée puisqu'en gros on se débrouille pour que tout ça ne retombe jamais dans le domaine public et que les droits durent à l'infini.
Oui, c'est auto-alimenté.
On retrouve là-dedans des tas d'arguments qu'on connaît, qui ont l'avantage d'être mis dans un ensemble cohérent.
Ce que j'apprécie, c'est que voilà, la revendication pour sortir de tout ça, c'est de vider les ordinateurs une fois qu'ils ont été achetés pour leur mettre du logiciel libre. Bravo, bien vu.
The Guardian, DRM dans HTML5, la réponse de Cory Doctorow à Tim Berners-Lee.
Alors, je rajoute, c'est traduit par le Framablog et hébergé par eux en français.
Donc, on en a parlé la semaine dernière, Tim Berners-Lee, c'est l'inventeur du HTML.
Oui, c'est pas rien, c'est monsieur, c'est sœur, Tim Berners-Lee.
Et donc, la semaine dernière, ce qui m'avait échappé, c'est que je pensais que c'était juste un petit coup de troll, mais non, au sein du W3C, qui est donc l'organisation qui s'occupe de gérer les standards d'Internet, il y a réellement des discussions actuellement sur l'intégration des DRM dans HTML5.
Donc je vois pas trop comment ils vont pouvoir faire ça, mais ça consisterait à rajouter des monotes numériques, à vous empêcher de faire ce que vous voulez avec des pages web, j'imagine. Donc là, on a une réaction de Cory Doctorow, qui est...
Cory Doctorow, c'est une des stars dans le monde Internet, hein, qui est un romancier, blogueur, journaliste et nouvelliste, donc quelqu'un qui est un Canadien, hein, qui a beaucoup d'influence dans le milieu. Et il signe un article vraiment intéressant parce qu'il est très pédagogique. Il part d'exemples avec du matériel physique comme les lecteurs de DVD et il explique pourquoi l'intégration des DRM dans HTML5 est une connerie et pourquoi ça va mener à une réduction des innovations et des libertés de chacun.
Oui, c'est vraiment pas mal. Il construit tout ça. Il explique justement, effectivement, les business models, les manières dont on peut fournir des services aux gens, eh bien, ça va les bloquer. Parce que le bon exemple, c'est les DVD. Les DVD avaient des DRM et surtout avaient des clauses dans les contrats entre les différentes entreprises qui les empêchaient d'en faire ce qu'elles voulaient. Et donc, ils ont rajouté des clauses géographiques, des idioties. Eh bien, regardez, les DVD existent depuis quoi ? Plus de 20 ans aujourd'hui. C'est quoi les innovations sur les usages qu'on a pu en voir ? Pas grand-chose. Et là, il se plaint et il revendique que cela vient de toutes ces clauses, de toutes les DRM, les monotes qui étaient embarquées.
Également dans l'article, hein, il dit que pour lui, Tim Berners-Lee, sur certains éléments, ne peut pas ne pas savoir. Et donc, indirectement, sans le dire, on sent qu'il l'accuse d'être invendu, quoi.
C'est moche parce que, par ailleurs, c'est quand même un grand gars. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'il fait ça pour faire plaisir aux membres du W3C, qui sont souvent des entreprises, mais qu'il sait que les DRM sont une cause perdue. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui les ont plus ou moins abandonnés, Apple parmi les premiers. Donc, pourquoi pas leur faire plaisir, même si, par ailleurs, c'est ridicule.
Numérama, la Californie s'ouvre aux cours universitaires sous licence Creative Commons. Un article de Julien L.
Relativement court article, mais qui fait le rapport avec l'éducation française, en disant, voilà, regardez là-bas, on est en train de faire évoluer les systèmes.
Oui, on avait remonté plusieurs articles depuis la rentrée sur le sujet. Et ben voilà, donc le lien que ce qu'ils ont fait chez nous et notre CNED.
Et puis les habitudes qu'on a aujourd'hui de sensibiliser à l'informatique, comment on appelle ça là, le B ?
Le B2I, C2I à l'université.
Voilà, où on n'apprend pas vraiment à faire de l'informatique, mais on doit valider des usages.
Des compétences, enfin c'est assez...
Assez pourri.
Flou, oui.
Et surtout,
c'est souvent très orienté.
Et en plus, voilà, ils rajoutent des notions de la sensibilisation à la propriété intellectuelle et pas vraiment aux logiciels libres qui sont pourtant la bonne alternative.
Voilà, la question, c'est est-ce que ça intègre une présentation complète des principes du libre qui sont vraiment un retournement de cette idée de verrouillage et qui rentre dans le cadre juridique en question. Le journal du net, solution propriétaire versus logiciel libre, un choix stratégique.
Bon article, une bonne comparaison.
Oui, bon, ça émane quand même d'un type de chez Red Hat, hein, Red Hat qui est un des principaux éditeurs de GNU Linux.
Il s'appelle comment ce gars ?
Ce type s'appelle Alan Hale.
C'est une bonne chronique qui explique voilà, une entreprise intelligente, comment elle doit intégrer du logiciel en interne plutôt que d'acheter des choses clés en main.
Oui, alors déjà, elle parle de cette idée de l'entreprise intelligente. Donc, il y a des logiciels qui permettent de surveiller tout ce qui se passe, d'automatiser toute une série de tâches pour prendre des décisions et être réactives. Et bon, après, évidemment, hein, il vend le logiciel libre comme étant la bonne solution.
Comme c'est bizarre.
Oui, bon, ceci dit, on est d'accord avec lui. Mais bon, ça reste quand même, fait partie de ces tribunes un peu publicitaires. Ce qu'on retient quand même là-dedans, c'est quelques trucs qui sont tout à fait vrais. C'est de dire qu'effectivement, quand on achète un logiciel métier, c'est des logiciels qui sont très compliqués. Donc, c'est pas des machins qu'on va installer rapidement sur un poste et qui vont marcher dans l'instant. Il faut les paramétrer, il faut les adapter au fonctionnement des entreprises. Donc, ça demande.
Ce qui est généralement le cas aussi pour les propriétaires. Hein. Voilà. Je dirais SAP, donc, il faut une équipe de dizaines de personnes pendant des mois et des mois.
Donc là-dessus, hormis le prix de la licence qu'il faut payer, le logiciel propriétaire et libre sont à égalité là-dessus, puisque derrière, il faut mener un projet, un véritable projet pour déployer ces trucs-là. Donc, on peut payer plus. Ce qu'il dit, par contre, c'est qu'avec le logiciel propriétaire, on perd en souplesse, puisque en général, on a toute une série de fonctionnalités qui sont intégrées avec des options, mais qu'on se retrouve vite à avoir des fonctionnalités qu'on ne va pas utiliser, alors que sur le libre, on peut vraiment tailler sur mesure comme on l'entend.
Et oui, et on n'est pas obligé de passer par un fournisseur bien défini, y compris Red Hat. On peut changer si on le veut. On a la liberté de ce point de vue-là.
Voilà, autre truc intéressant, c'est quelques conseils sur comment on fait, quelle est la bonne méthode pour déployer ce genre d'outils dans une entreprise. Bon, voilà, ça c'est intéressant. Là, on sent qu'il va un peu du consulting, mais en même temps, c'est pas complètement stupide comme conseil. Lemonde.fr, le Conseil national du numérique, se prononce pour la neutralité du net. Un article de Gwenaël Pépin.
Ça y est, donc enfin, la neutralité du net, y a des gens qui recommandent et qui vont peut-être faire des propositions de loi, je sais pas.
Oui, alors évidemment, le Conseil national du numérique, il s'adresse à Fleur Pellerin, qui l'avait un peu élargi, puisque ce truc qui avait été créé par Sarkozy était uniquement des gens du monde de l'entreprise.
Donc elle l'avait bien remis sur les rails, parce que voilà. C'était un peu fini, quoi, on pourrait dire.
Il y avait quand même de gros doutes sur sa légitimité. Il y en a toujours aujourd'hui, hein, puisque c'est quand même le ministère qui a choisi les gens qui étaient dedans. Ceci dit, cette question de neutralité du net, le ministre Fleur Pellerin l'avait écarté par le passé en disant qu'il n'y avait pas d'urgence, que c'était pas important, et avait demandé au Conseil national du numérique de bousculer le gouvernement. Il le fait en disant si, ce sujet-là, il est important. Donc c'est une bonne nouvelle.
Il est même vital, hein, je rappelle, la quadrature du net, Benjamin Bayard, il explique souvent que la neutralité du net, des réseaux, c'est le sujet le plus important qui existe, parce que il faut empêcher que le facteur ne puisse contrôler ce que vous avez dans votre courrier, ne puisse le rediriger à son envie en fonction de critères qui sont les siens. Et donc, non, au contraire, il faut assurer une neutralité de tous. Mais justement, ça a l'air d'être un peu bizarrement présenté par le CNN.
Déjà, l'article, je le trouve pas très bon, parce qu'il reste assez flou. J'en ai lu d'autres qui me semblaient beaucoup plus clairs, qui étaient plus engagés également.
C'est moche, tu remets en cause mon choix d'article.
Exactement. Voilà, il y a une réaction de la quadrature du net qui est pas satisfaite avec ce rapport, parce qu'il intègre à la fois ces questions de neutralité du net, à savoir votre fournisseur d'accès ne peut pas vous couper ou réduire le débit, par exemple c'est un service de vidéo par exemple.
C'est moche, là t'es en train de parler de Free et de oui, YouTube. Oui.
L'article n'en parle pas du tout, mais sur ces questions de neutralité du net, le dernier gros événement là-dedans, c'est Free qui a sucré les pubs de Google dans son bras de fer sur YouTube où ils ont des problèmes.
Pendant seulement quelques jours, hein, ça a fait un tel tollé que effectivement tout le monde avait repris le sujet, et on peut le sentir en filigrane dans cette demande, puisqu'il parle de la neutralité aussi du web.
Et oui, donc c'est pas juste cette question des intermédiaires techniques entre vous et Internet, c'est vraiment dans la décision, c'est cette idée de également demander à ce que les moteurs de recherche ne favorisent pas leurs produits
Google.
Ou les produits de leurs partenaires, etc. Donc c'est vachement plus compliqué à mettre en œuvre, parce que tout ce qui sort des moteurs de recherche, c'est un algorithme qui est secret, qui change tout le temps.
Oh oui, mais justement, on soupçonne qu'il y ait des règles qui favorise certains trucs.
Il y a nécessairement des règles, puisque c'est un algorithme. Et c'est bien gentil de dire, vous ne devez pas favoriser un tel, mais comment on va contrôler ça? Comment on le prouve? Ça paraît très très compliqué. Et donc voilà, la quadrature dit, la neutralité du net, on sait ce que c'est, on peut la définir et la définir techniquement, et donc demander à ce qu'elle soit respectée. Il dit, en gros, là, ça ratisse trop large, donc on est en train de noyer le poisson, et donc du coup, on risque de neutraliser la neutralité, comme ils disent. Wired Opinion, la génération GitHub,
Encore un article Framablog, mais ce coup-ci, c'est une opinion de Michael Rogers, qui vient donc de Wired Opinion.
Et donc traduit par le Framablog. Donc GitHub, c'est quoi ce truc ?
Eh bien, c'est un réseau social pour informaticiens, on pourrait dire, et surtout pour programmeurs. On en avait reparlé, parce qu'ils avaient dépassé le million de programmeurs, ce qui est considérable. Vous allez sur GitHub, vous mettez du code source, et surtout, vous pouvez aller sur GitHub, récupérer des logiciels libres et les forker.
Donc les forker, c'est faire une nouvelle version, c'est-à-dire on prend le code et on fait sa propre version qui dérive un peu ou beaucoup, et où on n'a pas besoin finalement de l'autorisation de la personne qui gère le projet pour pouvoir le faire évoluer.
Donc c'était souvent mal vécu, mais là c'est vraiment mis en avant, et GitHub fonctionne pour l'essentiel sur ce modèle-là.
Alors GitHub a l'avantage aussi, moi j'y suis jamais allé pour le coup, mais d'être sympa à utiliser, il y a des choses qui le rendent plus accessible, au point où, l'article cite, il y a des gens qui ne font pas d'informatique et qui mettent autre chose là-dessus parce qu'ils trouvent le principe intéressant.
Un bon exemple qui m'avait bien amusé, c'était toutes les lois allemandes qui avaient été déposées dessus, en utilisant Git tout simplement, et des gens avaient fait des modifications, mais il y a aussi des plans, des pistes cyclables, des planifications qui utilisent ce médium-là. Je rappelle, GitHub, malheureusement, c'est une plateforme web, mais ne révèle pas tout son code source. Tout le code source pour gérer ses services n'a pas été divulgué.
GitHub n'est pas libre et c'est un service hébergé.
Mais donc, qui héberge énormément de logiciels libres, c'est pour ça qu'on en parle.
Tout à fait, mais qui pourrait être acheté et donc ça pose des problèmes. Les commentaires de l'article sont vraiment bien, ils sont intéressants. C'est pas du gros troll velu, il y a de l'argument, il va pointer des oublis ou en tout cas des manquements de l'article. Donc ils veulent le détour.
Oui, allez jeter un œil, ça vous montrera un peu la culture programmeur, c'est vraiment pas mal. Sur ce, à la semaine prochaine.
Oui, salut tout le monde.